que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
De préférer jouer l'andante 24 février d'un certain Ervin Nireghiassi que Gassné, plus de 50 partitions, 50 artistes dévoués à la musique dont le point commun objectif.
C'est cette fameuse place du jeu de balle où il y a une brocante tous les matins. Et ben, le lendemain, ça se retrouve sur le marché du jeu de balle et tout est bradé. Et puis, des violons de haute valeur, des archers, enfin, merveilleux. Et c'est juste parfaitement bien fait. C'est ouais. Juste très émouvant, c'est très beau. Et je suis devenu une sorte de collectionneur. Et j'ai passé une après-midi chez lui à découvrir tous ses objets, toutes ses photos. Où il vendait plein de partitions, plein de livres et plein de vinyles très peu cher. Et un jour, je suis allé, carrément, parfois, on me donnait, en fait, parce que ça n'intéresse plus personne. Ça s'appelait Deux pièces de Willy Dortu. Et comme ça m'a intrigué tout de suite de voir dans l'écriture d'hérité du fond Willy Dortu, qui dormait dans un grenier, dans une vieille maison à Verviers. Et en fait, l'année dernière, j'ai préparé un concert. J'ai passé des heures, parce qu'il en a des milliers. Et c'est encore un site que j'explore au moins une fois par semaine, et je ne mens pas quand je... Toujours une découverte belge grâce à mes études au conservatoire.
Mais on a l'impression quand même que la Belgique est une espèce...
Évidemment Magritte. Il y en a un autre que j'aimais beaucoup, c'est James Ensor. J'étais allé plusieurs fois visiter son royaume et je suis tombé sur une pièce qui s'appelle La Gamme d'amour. Je peux vous montrer, en plus très très bien, très très lisible. Mais j'imagine qu'un jour, une pièce pour piano que j'ai trouvé vraiment intéressante au point de les enregistrer. Et pour la petite anecdote, comme j'avais mis une à 200 euros, je me dis ok.
Et elle a fini par lâcher
elle
à 200.
Elle a lâché à 200 euros. Et en fait, alors, j'ai une alerte pour Georges Perros.
Ouais.
Korngold. Voilà. J'ai même créé un article dessus. Sébastien Gander a toujours. Eric Satie. Jean-Marie Massou, le musicien. Lors de mes recherches autour de Scriabine. Et quand j'étais étudiant à Bruxelles, j'ai appris les couleurs et la synesthésie, tout simplement. Et j'ai fait plein de recherches, etc. Et j'ai passé des semaines, des mois à chercher dans tous les sens, à secouer Internet, secouer les écritures malhabiles. Alors qu'il a été élève de Scriabine. Donc ça, c'est la pièce que j'avais jouée, qui est là peut-être... On attend d'un élève de Scriabine, en fait.
Oui, c'est ça. C'est que le prof crée un horizon d'attente sur l'élève.
Et c'est donc une sorte de descendante de Scriabine, parce que ça a été une élève important au Canada et dans le nord des États-Unis pour un peu apporter la bonne parole scriabinienne.
Oui, il a bien.
Plutôt que de faire la mère clavière de Beethoven.
Oui.
C'est une mission que je m'impose, mais j'ai plus de choses à dire et à apporter là-dedans ces transcriptions, parce que les bibliothèques font pas ça gratuitement. C'était le moment où je rigolais, mais en fait... C'est une élève de la liberté.
Donc
Alfred
Crawford,
la Liberté, ouais. Il a une... Mais aussi des disques d'Alan Ovanes, des disques d'André Mathieu. Tous ces compositeurs qui aujourd'hui m'ont... J'en ai découvert plein chez Peters. Après j'ai découvert qu'il y avait un site internet, toujours la même façon. Ovanes, qui est bien connu aux États-Unis, mais en France on a tendance un petit peu à le sous-estimer. À ton avis, c'est laquelle ?
De toute la...
Alors, il y a un côté très... Les grands classiques du piano, et après, à côté...
Ah oui, c'est encore dans l'enveloppe.
Ah ouais, mais j'ai gardé l'enveloppe. Là, qui vient d'Italie, d'ailleurs. Donc, je suis un peu assez particulier, publié chez ECM, son label. C'est une pièce qui s'appelle Rite, une vidéo qui a 15 ans, et que je trouve même mieux que Dennis Russell Davis. La version est beaucoup plus belle, beaucoup plus... Dans le mail, je lui avais demandé... Comment il avait fait pour avoir cette partition, et à Carrette lui a envoyé la partition. Et il me raconte que ça a été pour lui la plus belle récompense musicale de toute sa vie. J'arrête, lui avait pas dit s'il pouvait le faire. Évidemment, j'ai insisté, tu peux imaginer, dit bon, je vais y aller au bluff. J'ai écrit à Richard Trifol que j'avais eu un contact avec qui j'arrête récemment, comme ça, et parfois ça marche, et là ça a marché. Ça a marché, 2 mois après, il m'a répondu, d'accord. Laissez-moi le temps, là je suis à boîte aux lettres, c'était celle-là, je tremblais tellement j'étais... J'ai ouvert. Et c'est... Pour moi c'est une des plus belles pièces que je trouve pas très bien défendues. que la maison prenne feu le jour même où je l'avais reçu. Je l'ai numérisé, je l'ai mis sur le plus remarquable.
Mais il y a une malice dans l'agneau, ce qui est pas...
Notamment, je trouve. Et quand on regarde ce que jouait et ce qu'aimait Frédéric Lagneau comme musique, on sait que ça sonne en fait, juste en deux notes.
Comme ça.
Bah c'est, en fait, ouais. À l'époque, à la SACEM, on devait savoir harmoniser un U. J'ai jamais travaillé, mais je l'ai trouvé hier dans mes archives d'internet. Je peux essayer de le jouer pour voir ce que ça donne.
Corpus, que ce soit un peu sur le bord du catalogue, est-ce que en jouant ça, c'est
un peu ma marque de fabrique de trouver des pièces un peu inconnues, rares,
d'être dans un à côté.
De 14 ans, il était tellement un prodige, une énigme scientifique qui avait des.
Et c'était dans cet ordre-là. Francis passait après le sexe.
Je suis accro 5-2 ans avant sa mort, et c'est des pièces qui sont complètement nues. C'est du piano minimaliste, mais sans la. Moi, j'arrive pas à m'empêcher. Qui. La. C'est une sorte de foutage de gueule intégral de Beethoven avec ses fins à la rallonge. En mémoire de l'assassinat du président John Kennedy. Il y a vraiment des pièces incroyables chez ce compositeur. Moi, je suis convaincu que ces musiques-là, parfois, il faut les aider aussi, en fait. On aide bien des œuvres un peu méconnues de Schumann, de Chopin ou de Beethoven. Ouais, on les interprète bien, on les travaille bien. Et pourquoi on ne le ferait-on pas pour ces œuvres-là, en fait ? Il y a des moments où ça m'arrive de faire des œuvres pas connues comme ça et de les aider, c'est-à-dire de bien les interpréter, de les travailler et peut-être même parfois de... Quoi, peut-être rajouter une octave ou de changer un truc ou de prendre mon temps de les interpréter. Pour moi, le rubato chez Chopin, c'est aider l'œuvre en fait. Si on joue comme un robot, c'est sûr que ça sera chiant. Mais non, en fait, faire de la musique, c'est aider les œuvres, tout simplement.
Parce que par exemple, Rosemary Brown, elle a besoin d'être aidée.
Ah ouais, totalement.
Ah oui, c'est ça.
Ah ouais, non, c'est sûr que si on joue ça tel quel. En même temps, c'est à double tranchant parce qu'il faut la jouer comme si on jouait les compositeurs qu'elle est censée défendre en fait. Quand on fait un nocturne de Chopin, il faut le jouer comme on jouerait un nocturne de Chopin. En tout cas, c'est dans l'état d'esprit moi, dans lequel je me suis mis quand j'avais fait un petit concert où je défendais sa musique, ou même sa pièce hommage à Schumann qui est juste magnifique en fait. Est-ce que c'est Schumann, est-ce que c'est Rosemary Brown? Je sais pas, mais je vais essayer de la retrouver, elle était là, ouais. En fait, c'est pas une musique révolutionnaire. Schumann, il a écrit des choses beaucoup plus belles, mais je sais pas si on essaie d'avoir un joli son. Si on fait ça avec sincérité, sans se dire que c'est la musique la plus révolutionnaire du monde. Sans en faire dans le sentimentalisme non plus, parce que ça pourrait vite ressembler à du Michel Polnareff, mais... je trouve qu'il y a... Toute mauvaise musique, parfois, si on la joue vraiment sincèrement et bien, peut devenir presque de la bonne musique.
En fait, il n'y aurait pas de musique totalement insauvable.
Si, j'imagine que si, je dois en avoir, hein, mais je m'y attarde pas. En fait, je consacrerai pas, à part Alfred Laliberté, c'est un peu l'exemple le malheureux pour lui.
C'est le point Godwin des inconnus de la musique.
Ouais, c'est ça. Il y a des choses. Non, ça, quand ça veut pas, ça veut pas en fait.
Mais qu'elles soient justement sauvées de l'oubli sur le fil, leur donne aussi une patine parce que on les entend avec une histoire déjà, celle qu'on vient d'énoncer.
Puis je pense que sans l'histoire, cette musique n'aurait aucun intérêt. En fait, il faut être honnête aussi. Je pense que tous ces gens-là ont aidé Delson ou de Schumann toute ma vie, alors qu'elle est très bien faite et que tout le monde la connaît. Mais peut-être aller un peu musarder dans d'autres destins musicaux.
Mais ça veut dire que la part de la recherche de partition prend un temps presque aussi important que la part de travailler le piano?
Ça, c'est une critique.
Non, c'est une question de méthode, c'est une vraie question de méthode.
C'est une critique que je peux me faire moi-même. Parfois, ouais. Ouais, je passe plus de temps à chercher des partitions qu'une fois que j'ai trouvé, que la travailler en fait.
Ouais.
Je pense que pour l'instant, j'ai mis plus de temps à trouver Rituel de Jarrett que le travailler.
Ouais.
Et ça, je sais que si je dois l'enregistrer, je vais devoir mettre du travail dessus. Mais oui, c'est sûr. En fait, ça se mérite, certaines partitions. Ça prend du temps, ça prend des années. Parfois, il faut même attendre qu'elles soient sorties en fait, avant que. Les chansons de Charles Trenet arrangées par Alexis Weissenberg sortent en vraie partition, une très belle édition d'ailleurs, chez Muse Press. Et ben c'est ça, il y avait des PDF qui circulaient sous le manteau sur Internet avant de sortir la vraie partition où là j'ai pu retravailler enfin les vraies versions de En avril à Paris qui a été un de mes tubes quand j'étais au conservatoire et qui sont des très belles pièces. Mais oui, parfois c'est plus de temps de recherche que de temps de travail. C'est juste pour le plaisir aussi, en fait. Il y a plein de pièces que j'ai jouées depuis tout à l'heure qui sont juste pour mon plaisir à moi de découverte. Il n'y a pas de but de profit de les rendre rentabilisées en concert, en disque ou je ne sais quoi. C'est juste, j'ai envie de me mettre telle musique sur les doigts, je suis content de l'avoir, en fait. Dans mon iPad, je me suis fait des catégories où je classe, j'ai des fichiers.
Ah oui.
Où j'ai...
Par usage
par parfois
concert, prochain disque.
Ah, exactement, ouais. J'ai, on va remonter jusqu'en haut, évidemment classé par compositeur, etc. Alors Robert Cabi.
Alors là, c'est par Satie en fait que tu arrives à Cabi.
Totalement, Robert Cabi, c'est un peu, pour ceux qui connaissent et qui aiment bien Satie, c'est un nom forcément qui résonne, car c'est lui qui a été un des acteurs principaux pour la redécouverte et l'amélioration du corpus satiesque. Dans les années 60, il a fait éditer chez Salab. Il avait 20 ans exactement, parce que Satie est mort en 25 et lui, il avait 20 ans en 1925. Pendant un an et demi, deux ans, il a côtoyé Satie en tant que jeune normalien, il sortait de Normal Sup. Et ils ont eu des liens d'amitié assez forts, parce que tous les deux étaient un peu des anarcho-communistes. Et Robert Cabi s'est trouvé dépositaire de pas mal d'œuvres de manuscrits d'Éric Satie et a fait tout ce travail pendant des années de récolter, d'aller voir Darius Milhaud, de lui reprendre quelques manuscrits et de les faire éditer en fait. Donc il a fait vraiment un travail formidable auprès d'Éric Satie. On lui est vraiment redevable, tous les musiciens qui jouent Satie. Et en préparant ce disque, Les Gymnopédistes, un ami musicologue, journaliste, François Henry, m'a conseillé d'aller un peu chercher autour de Robert Cabi parce que lui-même avait été compositeur. Bon, il est mort en 90, mais il se trouve que son fils, qui est assez âgé aujourd'hui, habite à une demi-heure de chez moi, à 7, à côté de Montpellier. Et je suis allé le rencontrer et il m'a donné des centaines de cahiers, parce que là je les ai en vrai, mais en PDF, je les ai encore plus. Plein de pièces pour piano, et pas que pour piano, de son père. Une écriture très à la Satie. Dès qu'on ouvre, on voit des pièces pour piano sans barre de mesure, Trois pensées nocturnes, avec des titres aussi. Vraiment, c'est tout l'univers de Satie. J'ai certaines partitions, je ne sais pas si je les ai là en vrai, mais où on voit même des dessins surréalistes, parce qu'il dessinait aussi beaucoup, Robert Cabi.
L'influence de Satie s'entend encore plus dans les années où justement il republiait les partitions inédites de Satie ou...
Je crois pas, je crois que ça l'a été un peu toute sa vie. Mais c'est une musique très particulière, j'arrive pas à je vais être honnête, mais j'arrive pas à savoir si c'est une musique géniale ou complètement nulle.
Ah oui, c'est à mi-chemin, exactement à mi-chemin.
Je sais pas si c'est à mi-chemin, mais c'est très particulier, je suis très décontenancé quand j'entends cette musique. Je peux essayer d'en jouer une pièce. Je crois que les embages c'est faisable. Les titres sont dans l'envie en fait, mais après quand je joue, je me dis mais en fait ouais, non,
l'envie retombe.
L'envie retombe. J'en ai pas mal aussi sur mon iPad pour te montrer les recueils avec des images. Donc ça c'est vraiment ses premières pièces. On voit, c'est vraiment des musiques nues en fait. Parfois il y a juste 3 mètres.
Oui.
C'est du minimalisme avant l'heure aussi.
Satie, elle est pas si loin dans le dépouillement quand
non,
même.
Non, mais ouais. C'est intéressant. Un jour j'en ferai quelque chose, j'en suis certain, parce que C'est des gestes artistiques.
Oui, puis il y a
en fait.
Les notes sans hampe qui font un peu penser au Fouralina.
Ensemble,
de
grave, gay, d'une intimité triste et sans rhétorique. Suite de phrases
sans rhétorique.
Ouais, c'est vraiment du Satie avant l'heure. On voit l'écriture.
Ah oui, il revendique ce côté archi dépouillé alors.
Mec, c'est l'écriture un peu maladroite aussi, on le voit. Mais. J'en ai des tas. Suite paléolithique. Je peux essayer de jouer une pièce qui s'appelle.
Oula.
Trois pièces de campagne, 1925. Bah, exactement.
Ça a l'air minimal, hein.
L'année de la disparition de Satie. Je peux essayer de jouer. C'est vraiment du déchiffrage pur et jus. Trois pièces de campagne, la pièce s'appelle La Résignation. Et comme indication musicale, c'est Couleur des yeux. Ça, je sais pas quoi en penser.
Ça pourrait s'appeler Voilà Voilà.
Voilà Voilà. Ouais, c'est très particulier. Je vais essayer d'en trouver une autre. Et j'étais tellement heureux quand j'ai découvert cette musique. Et quand je voyais tout de suite. Et là, je me suis fait avoir. Parce que quand je me suis dit, quand j'ai vu ces partitions, j'ai dit, oula, là, je tiens un sésame. Parce que je me disais, ça, c'est des choses que j'ai jamais vues jouer, jamais vu. Des pièces très particulières.
Ça avait vraiment l'allure d'un chef-d'œuvre inconnu, c'est
mais
ça.
Mais c'est ça.
Musique. Ah ouais.
Ouais, c'est...
Ah, même les partitions. Ouais.
Peut-être qu'un jour j'y reviendrai en me disant, mais en fait, c'est juste que j'avais pas les clés, j'étais pas assez articulé pour pouvoir.
Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hein.
Ah ouais,
Et elles viennent d'où ces partitions?
C'est le Frédéric, le fils. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais il a enregistré ça sur un clavier Nova. Oui, et ça m'a pas convaincu non plus des masses. Donc, avis au pianiste et au musicologue.
Robert Cabi vous
il y
attend.
Y a 10 000 pages de partitions à explorer.
Ouais, mais... Et qui n'ont jamais été jouées, jamais enregistrées.
Non, jamais. Et il y a vraiment des pièces qui sont immensément longues. Hein. Si on regarde le glossaire, deuxième sonate.
Mais ça a été édité quand même.
C'est édité par la. Comme musique.
Et ça donne quoi?
Ça donne quoi, Cahier des pleurs rentrés? Ouais, j'arrive pas à comprendre. Je pense que j'arriverais mieux à comprendre un enregistrement prévu avec, donc j'étais quand même bien obligé de le travailler.
Ouais.
Contrairement à Cabi où je pouvais le. Ça s'est un peu allégé. Et là, j'ai compris l'intensité et l'expressionnisme de cette musique qui m'a vraiment fasciné. Je pense qu'on a peu de temps sur cette terre et on a peu de temps pour lire des bons livres. Si ça vient pas tout de suite, c'est peut-être qui est décédé il y a moins d'un an, qui s'appelle Mario Stanchev. Mario Stanchev, qui est bien connu des Lyonnais et des jazzman, parce que c'est un grand pianiste de jazz, intéressé de jouer sa musique pour piano, seul. Et en fait, il en avait des tas. Il en a écrit des kilos et des kilos. Il m'a envoyé plein de pièces. Il en a écrivé tout le temps. Et il y a à la fois parfois des pastiches, des imitations baroques, comme il les appelait. Parfois, il y a des pièces vraiment originales, contemporaines, assez parfois dures d'accès. D'autres, ce sont des. Déjà, je les trouvais très très chouettes. Bon, je pourrais peut-être plus la jouer là parce que elle est pas. Très expressive. Il y a des spécificités musicales. Un piano pour déchiffrer, lire des choses. Et c'est là que j'ai rencontré un compositeur, il était transcripteur, il était professeur de piano, il a été directeur du Conservatoire de Lyon pendant pas mal d'années. J'ai deux recettes chantées.
Deux recettes, ça veut dire que c'est de la musique.
Je me suis donné une sorte de morale, de mot d'ordre, c'est d'être exhaustif, tout le temps. Avoir 50 cartons de vinyle parce qu'une personne venait de décéder, que sa famille...